Chers frères et sœurs, ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous, les assoiffés, accourez vers l'eau. Écoutez, écoutez mes paroles et elles vous nourriront. Écoutez, venez à moi et vous vivrez. Ces paroles peuvent se résumer en cette phrase que nous répétons. Cette phrase qui dit que la grâce et la paix nous sont données de la part de l'Éternel, notre Dieu. Voilà ce qui, ce matin encore, nous réunit, notre réponse à cette promesse que la grâce et la paix nous sont permises. Éternel, notre Dieu, nous voici rassemblés, et toi au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec les frères et les sœurs notre adoration, notre prière. Que ce temps de culte soit précisément l'occasion pour nous d'éprouver ta grâce et ta paix. Amen. Dans notre recueil de chants, nous utiliserons le cantique 405 pour ponctuer les différents temps de la liturgie. Nous nous levons pour chanter la première strophe du cantique 405. Sois-tu éternel, tu nous as aimés avant que nous te connaissions. Tu nous as donné ta parole pour que nous l'entendions. Tu nous as donné Jésus-Christ pour que nous apprenions ce qui est véritablement l'amour. À travers tes paroles, nous entendons ces promesses qui fondent notre espérance. Béni sois-tu. À travers les textes de la Bible, nous découvrons de quelle manière tu nous fais sortir des impasses où nous nous trouvons. Ta parole nous permet de nous diriger, et le Christ Jésus est-elle une colonne de feu qui nous guide et qui nous conduit à travers le désert, pour que nous puissions nous aussi entrer en terre promise, là où le lait et le miel. Béni sois-tu, Seigneur. À travers ta parole, tu nous fais connaître ton espérance. Jésus-Christ est pour nous un chemin qui conduit à la vie éternelle, celle que rien jamais ne pourra nous retirer. Et à travers cette promesse qui retentit dans l'Évangile, nous éprouvons ce qu'est la joie que tu nous offres et la joie qui nous est permise au sein de la communauté des fidèles. Béni sois-tu, Éternel. Alléluia. Et cette joie, frères et sœurs, nous pouvons la chanter avec le psaume 81. Au psaume 81, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. terre. Je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de mes faiblesses et de mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien. Nous sommes des êtres marqués par ce que la Bible nomme le péché. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me convient, mais toute ma nuit, ces jours et ces nuits, ses grandeurs et ses faiblesses, afin que toute ma vie soit placée sous la puissance de ta justice et de ton pardon, afin que toute ma vie soit apaisée et renouvelée par toi. Force est de constater que tu n'as pas été le Dieu unique dans mon existence. Il y en a tant d'autres, je le reconnais. Il y en a un immense, c'est moi-même. En toute humilité, je te demande, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser et de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Je te demande de me rappeler sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Je veux me rappeler sans cesse que c'est toi qui me rends juste, par grâce seule. C'est toi qui me donnes la paix. C'est toi qui me fais vivre. Amen. Frères et sœurs, chantons la deuxième strophe du cantique 405.
Frères et sœurs,
chantons la quatrième strophe du cantique 405 et levons-nous pour chanter en réponse à cette grâce.
certaine mesure, il est heureux que Picamol ne soit pas avec nous ce matin pour le culte. Il est probable que la deuxième strophe lui serait un peu restée en travers de la gorge. Ne pas être vaincu dans la mêlée, il faut reconnaître que c'est plutôt le casque olympique qui en a fait quelque chose d'utile hier soir. Bon, on se consolera par le fait que le Paris Saint-Germain a quand même gagné la Coupe de France et le Championnat de France. Bien, avant de lire le texte le plus connu de la Bible, ce qui vous laisse comme ça le temps de réfléchir à quel est le texte le plus connu de la Bible, nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui as prononcé ta parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, par ton Esprit, rends maintenant ce texte que nous allons lire aussi vivifiant que possible, afin qu'il devienne pour nous ta parole, une parole qui nous aide à mieux nous comprendre, une parole qui nous aide à exister. Amen. Bien, alors quel est ce texte le plus connu de la Bible, du moins en régime chrétien? Ce n'est pas une question rhétorique. Ah oui, ça, en fait, quand on parle du texte le plus connu, c'est le texte qu'on connaît mieux, donc forcément on se livre un peu. Bon, c'est facile. Déjà, vous voyez que la Bible est ouverte dans son deuxième, son troisième tiers, c'est plutôt dans le Nouveau Testament déjà. Oui, on peut répondre. Corinthiens 13, le texte de Paul sur l'amour. Non, c'est pas ça. Impossible. Mais néanmoins, je pense que ma réponse est assez objective. Je pense que le texte le plus connu se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 9 à 13. C'est le Notre Père. Eh oui, parce qu'on le dit chaque dimanche, et même plus, si affinité. C'est donc le Notre Père que je vais vous lire. Et c'est l'une des demandes du Notre Père, la dernière à vrai dire, qui nourrira notre méditation ce matin, mais je vous lis l'intégrale dans la version de Louis II. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La vérité est que la fin du texte, en fait, n'est pas vraiment censée être dans la Bible. Il n'y a que dans le Codex de Vest qu'on a ce qu'on appelle la doxologie finale, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Codex de Vest en rapport avec Théodore de Vest, et donc les protestants, pour faire les malins, ont décidé de l'inclure dans le Notre Père, qui dans la tradition catholique est légèrement séparé au moment de l'Eucharistie. Avant de nous plonger dans ce texte biblique, et donc notamment dans la dernière demande, je vous propose de prendre la troisième strophe du cantique 405, la troisième strophe que nous chantons assis.
Thank you.
Jusqu'au mois de décembre, les chrétiens avaient pour habitude de dire « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et puis donc, il y a eu une modification qui a été apportée dans un élan à peu près œcuménique, pour finalement s'aligner sur cette traduction de Louis II, du moins pour la première partie, « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » À vrai dire, s'il y a eu un bénéfice au moment de cette modification, c'est qu'on s'est mis à parler du Notre Père. Et dans le groupe d'études bibliques sur le Notre Père, l'une des remarques qui est ressortie de façon assez générale, c'est qu'il est quand même difficile de dire Notre Père de bon cœur. Et ce qui est assez surprenant, c'est de constater que le motif pour lequel la plupart d'entre ceux qui participent à l'étude biblique, je ne vais pas parler pour ceux qui ne se sont pas exprimés, la raison pour laquelle la plupart continuent à dire Notre Père, c'est que les chrétiens disent Notre Père. Et en fait, pour une grande part, c'est par conformisme que nous disons le Notre Père. Mais, à titre personnel, beaucoup ont dit qu'ils n'étaient quand même pas très à l'aise, notamment avec cette demande-là. Agir par conformisme, avouez que ça ne correspond pas très bien à l'attitude chrétienne et encore moins protestante telle qu'on l'imagine. Et si cette prière reste en travers de la gorge, c'est essentiellement pour cette dernière demande qui était jusque-là traduit par « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » et qui a été corrigé en « Ne nous laisse pas entrer en tentation » en décembre dernier. De fait, cette demande a quand même de quoi nous faire grincer sérieusement des dents. Et pour deux raisons. La première, du temps où on disait « Ne nous soumets pas à la tentation », c'est l'idée de soumission qui était quand même assez insupportable. Concevoir que nous pourrions être soumis, ce n'est vraiment pas dans l'ADN de la foi chrétienne, qui est quand même plutôt entièrement orientée vers la libération. L'Éternel est celui qui nous libère de nos servitudes. C'est la première des dix paroles. Être soumis, c'est renoncer à sa liberté. Et plus que renoncer à sa liberté, renoncer à la liberté qui nous est offerte par Dieu. Et dans une certaine mesure, être soumis, c'est renoncer à Dieu. C'est la raison pour laquelle un chrétien, dans son expression protestante, pourrait quand même considérer qu'il est difficile de pouvoir nommer sa religion soumission. Ça n'irait vraiment pas de soi. Donc, être soumis, si c'est renoncer non seulement à sa liberté, mais aussi à la liberté de Dieu, c'est finalement aller à l'encontre de notre vocation. La liberté, c'est, depuis la philosophie des Lumières, notamment la liberté de conscience, la liberté de jugement, la liberté de ne pas tenir pour argent comptant ce qu'on nous a toujours dit et ce qu'on a toujours voulu nous faire croire. Et l'un des efforts du protestantisme, depuis la Réforme, a été notamment de retourner aux textes, dans leur langue originelle. On n'a pas, vous savez, le texte originel de la Bible, mais on a quand même de vieux manuscrits qui nous rapprochent du temps où la Bible a été composée par couches successives. Et cet effort pour retourner aussi proche que possible à l'origine était une façon d'être libre vis-à-vis de tout ce qu'on pouvait nous dire, peut-être parfois avec de bonnes intentions, peut-être parfois avec de moins bonnes intentions. Et le retour à la langue grecque pourrait nous permettre de constater que le terme de soumission n'est effectivement pas présent dans ce verset biblique. Cela permettrait de se rendre compte que le verbe n'est pas soumettre de quelque manière que ce soit. Ce qui explique en partie la correction en « ne nous laisse pas entrer en tentation », qui est effectivement plus fidèle, nous allons le voir, au terme grec. Néanmoins, L'expression « ne nous laisse pas entrer en tentation » ne résout pas tous les problèmes, je trouve. Si la soumission est évacuée, ce qui est déjà une bonne chose, il me semble que l'expression « ne nous laisse pas entrer en tentation » préserve le sadisme de Dieu. Ce qui n'est pas beaucoup plus satisfaisant, je trouve. Ce sadisme de Dieu est préservé puisque cette demande peut donner le sentiment que Dieu pourrait nous laisser entrer en tentation sans broncher, pour employer un anthropomorphisme. Vous voyez, c'est une phrase qui dit que Dieu serait donc en mesure de nous éviter les problèmes, mais il ne le ferait qu'à la condition qu'on le prie, qu'on l'implore, peut-être même qu'on le supplie. C'est une image perverse de Dieu, ça, quand même. Dans ce cas, il ne ferait preuve d'amour qu'à la condition qu'on lui adresse la demande en bonne et due forme. Au fond, cela reviendrait à aimer à la condition que nous soyons nous-mêmes aimés. C'est pas vraiment de l'amour agapé, ça. C'est plutôt de l'amour qui calcule. Et une économie d'amour qui est quand même assez étrangère à la grâce. Et je trouve que cette image perverse de Dieu, dans ce cas, devrait plutôt nous conduire à refuser cette traduction également. Autant refuser que Dieu puisse nous soumettre à la tentation est une manière de refuser qu'il soit celui qui nous impose les problèmes, autant accepter qu'il puisse nous laisser sombrer revient à exprimer un amour divin particulièrement contestable et dont le seul bon sens devrait suffire à nous tenir éloignés. Sans vouloir la dénoncer, il y a quelqu'un parmi vous qui récemment sur Facebook a mis un petit message disant « Autant se tenir éloigné des personnes qui nous pourrissent la vie, en ce moment. » Eh bien, ce serait ça, finalement. Aimer en laissant l'être aimé s'abîmer, voilà qui serait proprement problématique. Si vous voyez votre enfant, votre petit enfant, qui court un risque, vous allez intervenir. Si vous voyez qu'il est susceptible de se blesser, vous allez intervenir. Avant d'aller un peu plus loin, il convient néanmoins de se rappeler que ce texte est une prière. Et donc, il convient de se rappeler le statut spécifique de la prière. En effet, une erreur serait de considérer que la prière est un exposé de théologie, qui dit ce qu'est Dieu. La prière n'est pas un discours sur Dieu. La prière est un discours à Dieu. Et cela change considérablement les choses. Et cela explique d'ailleurs la teneur du livre des psaumes, ce grand recueil de prières. Un professeur de théologie systématique qui devrait noter les psaumes, à mon avis, ne mettrait pas la moyenne. Ça serait à vérifier au prénom de Boudaine. Ce qui est dit au sujet de Dieu dans beaucoup de versets des psaumes est épouvantable et très contraire à ce que nous disons par ailleurs dans les textes bibliques. Alors il est utile de garder les tensions. Mais il y a quand même des contradictions assez fâcheuses. Cela s'explique par le fait que la prière a un statut particulier. La prière, c'est le fait de pouvoir exprimer ce que nous pensons, ce que nous croyons. Et ce que nous pensons et ce que nous croyons n'est pas toujours conforme à ce que Dieu peut être. De même que lorsque nous pensons à quelqu'un, l'idée que nous faisons de cette personne n'est pas forcément conforme à l'identité de cette personne. D'ailleurs, il y a toujours un décalage entre l'image que nous faisons d'une personne et ce qu'est la personne. Eh bien, pour la prière, c'est la même chose. Nous pouvons dire des choses au sujet de Dieu ou demander des choses à Dieu qui ne correspondent pas du tout à ce qu'est Dieu ou à ce que Dieu est en mesure de pouvoir accomplir. La prière, c'est l'occasion que la religion nous donne pour faire un travail sur soi, afin d'évangéliser nos pensées, nos idées et même notre foi. Quand le psalmiste dit que celui-ci, il le met d'une haine parfaite, c'est quand même un peu contradictoire avec ce que nous avons entendu sous la plume de Jean tout à l'heure, qui prône l'amour du prochain. Quand deux psaumes plus tôt, le psaume 137, le psalmiste se dit, les enfants de mes ennemis, je vais les éclater contre les rochers. C'est pas tout à fait l'amour du prochain non plus. Ou alors, l'amour perverse. Bien. Eh bien, vous voyez, les psaumes sont en fait des processus qui nous permettent d'évangéliser nos pensées, nos intentions. Et donc, il ne faut pas tenir les prières pour des exposés théologiques auxquels il faudrait adhérer, mais plutôt comme des démarches personnelles, un travail sur soi, qui n'est jamais véritablement fini. C'est la raison pour laquelle il faut lire le psaume 22 jusqu'au bout, et ne pas s'arrêter à la citation que Jésus en fait sur la croix. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un psaume qui finit bien. À la fin, le psalmiste danse et chante dans les parvis de Dieu. Donc ce n'est pas un psaume d'abandon jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Par conséquent, quelle que soit la traduction que nous adoptions de cette demande du Notre Père, il est préférable de ne pas en faire une vérité sur Dieu, mais un moyen de travailler sur nous. La prière dit beaucoup plus sur nous que sur Dieu. C'est comme quand on demande quel est le texte le plus connu de la Bible. Ça parle de nous plus que de la Bible, en fait. Alors, demandons-nous ce que réalise cette demande, même lorsqu'elle n'est pas tout à fait bien traduite. Eh bien, tout d'abord, nous pouvons constater que c'est la seule demande avec une négation dans tout le Notre Père. Et ce n'est pas rien. C'est la demande qui pose une négation devant la soumission, devant la tentation, quoiqu'il vaudrait mieux traduire perasmos par épreuve. Cette demande ne tient pas la tentation ni l'épreuve pour une situation devant laquelle nous devrions nous incliner servilement. Et en fait, cela n'est pas rien. Cette demande est un refus. Cette demande encourage le refus de l'épreuve. Elle autorise la révolte. Elle pose que nous n'avons pas à accepter docilement que le malheur puisse être une sorte de way of life, un art de vivre. Cette demande est un acte de rébellion contre le malheur, quelle que soit la traduction que nous adoptions. Contre cette idée aussi fâcheuse que bien répandue dans les esprits, quand même assez formatés, de nombreux chrétiens, qui pensent que ce qui nous arrive est toujours voulu par Dieu, eh bien, cette demande du Notre Père pose qu'il est juste et bon de ne pas accepter le malheur comme une possibilité parmi d'autres. Cette demande légitime les actions de lutte contre tout ce qui défigure l'humanité. Elle légitime les actions pour l'abolition de la torture. Elle légitime aussi toutes les actions d'entraide pour sortir les uns et les autres de ces situations épouvantables dans lesquelles ils se démènent. Cette demande légitime ce qui permet d'empêcher tout ce qui blesse, tout ce qui fait mal. Et sur le plan plus religieux, cette demande coupe court à cette idée insoutenable quand même que le malheur serait une pédagogie divine pour obtenir une plus grande félicité. La possibilité que Dieu se sert du mal, du malheur, de l'épreuve, pour nous rendre meilleurs. Cette idée aussi qu'il faut souffrir pour être heureux. Par cette négation posée en amont, Dieu est au contraire ce qui désigne tout ce qui nous délivre du mal. Tout ce qui nous arrache, tout ce qui nous arrache au gris du malheur. Aussi ce qui nous délivre de nos propres prisons mentales dans lesquelles nous sommes parfois enfermés. Il arrive que nous nous enfermions dans une sorte de malheur, dans une sorte de dépression. Eh bien, Dieu est ce qui nous libère de la prétendue fatalité du mal. Et cette prière nous rappelle ce qui nous est permis d'espérer. Une vie délivrée de l'obligation d'en baver. Une vie délivrée de l'obligation d'accumuler difficultés sur problème. Cela ne correspond pas à la vocation chrétienne. Contre Martin Luther, qui disait que la vocation du chrétien est de souffrir, souffrir et souffrir, cette demande du Notre Père autorise chacun de nous à échapper à l'épreuve et à être délivré du mal. Ça change un peu la donne quand même. La souffrance n'est pas rédemptrice. Le malheur n'est pas salvateur. La prière en général, et cette prière en particulier, nous permet de découvrir quelle relation à Dieu peut être juste pour le croyant. Je vous l'ai dit, la prière permet d'accomplir le chemin nécessaire pour une vie plus en harmonie avec ce que propose l'Évangile, l'Évangile que nous pourrons d'autant mieux comprendre que nous irons voir du côté du texte grec. Le verbe qui pose problème, c'est le verbe « eispero ». Il se décompose en deux parties, le préfixe « eis », qui veut dire « dans », « juste dans », il y a de mouvement, « juste dans », et « ferro », « porté », que vous connaissez dans « phéromone », dans « sémaphore » aussi, le fait de porter les signes. « Ferro », c'est « porté ».« Eispero » signifie donc « porté jusque dans ». Et en français, nous avons un mot pour ça. C'est le verbe « emporter ».« Emporter ». Ce que Jésus conseille à ses disciples, c'est de demander à Dieu de ne pas les emporter dans l'épreuve. Littéralement. Alors, vous allez dire, en fait, c'est guerrier. Dieu serait donc susceptible d'emporter les humains dans l'épreuve, c'est-à-dire de les placer dans des situations impossibles à moins qu'on le supplie de s'abstenir. Souvenons-nous que la prière nous permet de faire un travail sur nous-mêmes. Que la prière nous permet de changer. Eh bien, examinons ce que cela peut changer dans notre manière de comprendre l'action divine. Et pensons à nous-mêmes, lorsque ça ne va pas. Pensons à notre propre prière, lorsque nous sommes un peu en panne, lorsque c'est difficile. Que demandons-nous à Dieu? De nous accompagner et de nous porter. Notre prière, classiquement, en zone de difficulté, c'est l'accompagnement et le fait d'être porté. Et vous connaissez alors peut-être ce texte, qui, par une métaphore, raconte qu'un homme marche à côté de Dieu sur une plage. L'un et l'autre laissent des traces visibles sur le sable. Toutefois, en se retournant, la personne observe que lorsqu'il y a eu des coups durs dans la vie, car évidemment cette plage est la métaphore de toute l'histoire de cette personne, lorsqu'il y a eu des coups difficiles dans sa vie, il n'y a plus qu'une seule trace de vrai. Et il en conclut que c'est à chaque fois que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu explique que dans les moments difficiles, en fait, il le portait. Et donc, la trace de pas qui manque, c'est la trace de pas de l'homme, puisqu'il en est bras de Dieu. Eh bien, je propose d'entendre cette demande demande du Notre Père comme une demande qui récuse cette vision des choses et qui propose une alternative. Cette demande du Notre Père ne considère pas qu'il faille demander à Dieu de nous porter dans les moments d'épouvante. Cette prière, en usage dans le christianisme, me semble recommander au contraire de prier Dieu de ne pas nous porter lorsque nous sommes dans une mauvaise passe, de ne pas nous emporter au cœur de l'épreuve. Dans une certaine mesure, le père de l'Église, Origène, disait cela dans son traité sur l'oraison. Il traduisait cette phrase de notre Père de la manière suivante. Fais que nous ne soyons pas emportés dans l'épreuve. Après tout, c'est un subjonctif. Fais que nous ne soyons pas emportés dans l'épreuve. Et comme c'est un aoriste, on pourrait dire, fais que nous ne soyons pas une seule fois emportés dans l'épreuve. Jamais. Autrement dit, cette prière pourrait nous proposer de laisser Dieu faire autrement que d'aller dans notre propre sens. Il y a un côté perverse, là aussi, dans notre prière qui demande à Dieu de nous accompagner et de nous porter. C'est de considérer que finalement cette prière demande à Dieu d'aller dans notre sens et de valider ce que nous sommes en train de faire, coûte que coûte. Et si nous nous enfonçons dans les problèmes, eh bien, qu'ils s'enfoncent avec nous dans les problèmes. Eh bien, voilà qui est bien contraire à ce que l'Évangile nous propose. Au lieu de tous mourir dans les problèmes, l'Évangile propose d'être arraché aux problèmes. Cette prière suggère que Dieu ne nous aide pas, qu'il ne nous caresse pas dans le sens du poil. Dieu, ce n'est pas ce qui dit oui à nos caprices, à toutes nos envies, et non par conséquent à toutes nos erreurs. La prière du chrétien, ça on le savait déjà, ne consiste pas à demander à Dieu qu'il ne nous arrive rien. S'il ne nous arrivait rien, ce serait le pire des malheurs, parce qu'il ne pourrait rien nous arriver de bon. La prière chrétienne consiste à demander que nous ne soyons pas encouragés dans les voies de perdition, mais que nous soyons délivrés du mal et qu'une autre voie puisse s'ouvrir. Il s'agit de faire en sorte que notre prière ne soit pas une manière d'encourager notre penchant naturel vers la plainte, la tristesse, l'insatisfaction, mais qu'elle soit une manière de nous concentrer sur ce qui nous rend plus libres, sur ce qui nous arrache au malheur, et donc, ultimement, sur ce qui nous conduit au bonheur. Cette demande, tout insupportable qu'elle pourrait paraître en première lecture, est en fait une demande qui dit non au malheur et qui dit oui à tout ce qui nous libère du mal et du malheur. De fait, si nous sommes un peu lucides, la vie ne cesse de nous exposer à toutes sortes d'épreuves. Eh bien, le grand travail qui nous incombe consiste à ne pas jeter l'éponge, à ne pas nous laisser abattre par les épreuves, ni à embarquer tout le monde dans nos épreuves, comme une sorte de grand trou noir. La foi chrétienne est le refus du mal comme un vaste trou noir qui engloutirait tout. Ne pas succomber, et pour cela, s'en sortir. Au fond, s'il y avait une tentation, ce serait celle de succomber, de baisser les bras, et d'accepter que cela n'aille pas. D'accepter que la vie soit finie. Job lui-même, alors que franchement, ça n'allait pas fort pour lui, n'a jamais accepté sa condition. Si on utilisait un peu l'anthropomorphisme, il a plutôt attrapé Dieu par le col, et lui a demandé quelques explications sérieuses. Tandis que ses amis, grands théologiens devant l'Éternel, ou plutôt devant les hommes, essayaient de lui faire entendre raison, et de lui faire comprendre que si on était arrivé là, c'est bien parce qu'il le méritait. Que dans une certaine mesure, il l'avait cherché. Au bout du compte, le texte dit que Dieu dit de Job que c'est celui qui a bien parlé. Parce qu'il n'a pas jeté l'éponge. Parce qu'il est resté révolté contre l'injustice. Parce qu'il est resté révolté contre le malheur. Et qu'il a fait en sorte de pouvoir s'en sortir. Eh bien, cette demande du Notre Père indique que la foi consiste à dire oui à ce qui ne nous encourage pas dans le malheur. À dire oui à ce qui nous en arrache et nous en éloigne. La foi chrétienne consiste à ne jamais se faire une raison, ni à accepter benoîtement les situations invivables. Ne pas s'habituer à ce qui est invivable. Et cette prière nous autorise à prendre la suite des psalmistes qui rageaient devant les situations injustes, qui se révoltaient devant les souffrances, qui ne considéraient pas que la souffrance pouvait être rédemptrice et le malheur expiatoire, et qui indiquaient par là leur intuition qu'une puissance de vie est toujours disponible, même au pire de l'épreuve, et qu'un autre ordre du monde est possible. Amen. Si nous avions repris le chant en louange et prière, je vous aurais bien proposé de chanter debout sainte cohorte, mais le cantique 628, dans une certaine mesure, lui est un peu semblable. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4 du cantique 628, levons-nous pour chanter. pouvez, votre heure de la fermée sera, vous pouvez vous asseoir. Si on chante, enfin, si on chante pas, vous faites comme vous voulez. Si je ne vous fais pas chanter la troisième strophe, c'est parce que la troisième strophe est assez contraire à la dernière demande de notre Père. Comment pouvoir chanter que jamais les tempêtes, sans la volonté du Sauveur, n'éclatent sur nos têtes? C'est quand même fou, ça. Ce serait ça, l'amour divin. Nous mettre dans l'embarras, pour le dire avec un petit peu de fixe. Bon. Passons aux informations qui concernent notre communauté. Alors, d'abord, à l'issue du culte, vous serez invité à partager le repas paroissial qui se tiendra derrière les rideaux du temple qui, à défaut de se déchirer du haut en bas, ce qui ne serait pas très économique, s'ouvriront latéralement. Et vous verrez que le Saint des Saints n'est pas complètement vide, les tables sont déjà dressées. Si vous êtes venu les mains dans les poches, écoutez, c'est pas très grave, vous pouvez soit passer par une petite boulangerie pour apporter un peu quelque chose, soit profiter aussi de la générosité des uns et des autres. L'important, c'est qu'il puisse y avoir un moment de pleine fraternité et de pouvoir faire un peu mieux connaissance en passant un bon moment ensemble. Les catéchumènes, eux, direction la faculté de théologie pour notre journée catéchétique. On passera aussi un bon moment. Il y a les éclairs, j'allais dire les éclairants et les éclairoses, mais il n'y a que des éclairoses là, qui ont quelques gâteaux aussi à vous vendre. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à la boulangerie, vous pouvez acheter les desserts. Est-ce que vous dites un mot sur votre projet, sur ce que vous faites, la raison pour laquelle il faut tout acheter? Voilà, juste un mot. Pendant que vous arrivez, je vous dis qu'il y a, c'est le mois de juin, et la théologie va devenir assez conviviale. La vie paroissiale va être essentiellement consacrée aux fêtes de fin d'année. Nous avons trois fêtes de fin d'année. La première, c'est le 17 juin, à partir de 10h30, à la faculté de théologie. Donc, à 10h30, culte, ensuite, repas paroissial, et puis on passe l'après-midi tranquille de détente. C'est aussi l'occasion de dire au revoir à Christine Wilk, qui rejoindra au 1er juillet la fonction d'animatrice nationale de la jeunesse pour notre Église. Et puis aussi de saluer et remercier les personnes qui, cette année, ont été au service de notre Église. Ensuite, deuxième fête paroissiale, cette fois pour le secteur de Garrigues, le 24 juin. Vous avez un papier disponible. Il s'agit de s'inscrire à l'avance. Troisième fête paroissiale, le 1er juillet. Cette fois à Cournon-Terral, et vous avez également un papier à votre disposition. Les autres informations sont sur la feuille paroissiale, et je laisse maintenant la parole à votre groupe.
Non, micro.
Non, sinon, on va penser que moi j'ai besoin du micro et pas toi.
Bonjour, nous sommes une équipe de l'unité des scouts de Montpellier. Et aujourd'hui, on vient vous vendre des gâteaux pour financer un projet. Donc, on aimerait bien ramasser les déchets sur la plage et donner de l'argent à une association. Donc, on hésite encore entre Médecins Sans Frontières ou La Croisée, la Croix-Rouge. Et du coup, voilà, c'est prix libre et on a fait les gâteaux nous-mêmes. Donc, voilà, merci.
Maintenant, ça va être le moment de l'offrande pour notre Église. Là aussi, c'est prix libre, ce qui vous permet de donner le maximum. Unissons-nous dans la prière. Dieu d'amour, nous avons entendu que tu souhaites nous faire entrer dans une vie débarrassée de ce qui nous afflige, de ce qui nous rend malheureux. Et pour cela, tu nous emplis de ce que nous nommons la grâce. Tu nous appelles à participer au ministère du Christ, vivant et priant pour le monde jour et nuit, jusqu'à ce que tous les êtres deviennent véritablement humains et vivent en formant ta sainte famille, unis dans le respect et l'amour, tendus vers le bonheur. Alors, pour l'hospitalité et pour la réconciliation pratiquée dans nos églises et dans nos sociétés, entends notre prière. Pour la sollicitude à l'égard de notre environnement, afin que la dépendance mutuelle de toutes les espèces soit respectée et protégée, Seigneur, entends notre prière. Pour nous-mêmes et pour chaque personne, afin que nous arrivions à renoncer à tout ce qui est faux en nous, à tout ce qui est source de souffrance, de malheur, et que nous devenions des disciples du chemin, de la voie que le Christ a ouverte, qui mène à la vie. Seigneur, entends notre prière. Bénis-nous tout au long de cette journée, de cette semaine. Ouvre notre cœur et notre esprit aux autres. Ouvre-nous aux dons inattendus qu'ils pourraient nous apporter. Rends-nous attentifs à ta présence surprenante. Aide-nous à entendre ta sagesse lorsque tu parles. Et puissions-nous être une bénédiction pour toutes les personnes que nous rencontrons. Et nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus a enseigné à ses disciples. Chacun est libre de pouvoir l'exprimer dans la formule qui lui convient le mieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous emporte pas dans l'épreuve, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Levons-nous maintenant pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de tendresse, qui a fait se lever le Christ d'entre les morts, nous permet de nous lever notre tour et fait se lever en nous tout ce qui est mort abattu, afin de nous conduire à la vie éternelle. Frères et sœurs, allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et chantons la première strophe du cantique 243.